Notre dernière étude ensemble a démontré la certitude du fait que Jésus-Christ est non seulement mort sur la croix et qu'il fut enterré, mais aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Aucun fait dans l'histoire n'est mieux attesté que ceci. Ces trois faits, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, constituent la base de ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Il s'agit du cœur du message chrétien depuis le premier siècle. En 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, l'apôtre Paul écrit ceci à ceux qui avaient été convertis dans la ville de Corinthe. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Nous verrons aujourd'hui la signification que la Bible attache particulièrement à la résurrection. Jésus parlait parfois d'une manière voilée, mais tout au long de son ministère, il se référait à sa résurrection d'entre les morts comme la preuve par excellence qui confirmerait son droit d'agir comme il le faisait. Après la première fois où il a chassé les vendeurs d'animaux et les changeurs d'argent de la cour du temple de Dieu à Jérusalem, Jean 2, versets 18 à 22 nous dit « Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en trois jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. En Matthieu 12, versets 38 à 40, pour parler du même miracle, il employa une autre image. Celle-ci tirée de la vie du prophète Jonas de l'Ancien Testament. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Mais avec ses disciples, Jésus ne parlait pas toujours en parabole. En Marc 9, versets 31 et 32, nous voyons qu'il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Avant sa mort, les disciples de Jésus n'avaient pas pu comprendre ce qu'il leur disait sur ce point. Sûrement, il ne devait pas mourir de si tôt. Et si, selon eux, il ne devait pas mourir, c'est qu'il parlait sûrement toujours en parabole quand il disait qu'il devait ressusciter. Mais là, il ne parlait plus en parabole. Il parlait ouvertement et littéralement de l'accomplissement même de sa mission sur la terre. Quand nous pensons à l'effet de la résurrection de Jésus sur ses disciples, nous voyons que Jésus avait raison d'insister sur ce miracle comme celui qui le ferait connaître avec plus de force que tous les autres, celui qui proclamerait le plus clairement sa divinité. C'est ainsi que Thomas a compris la vraie identité du Maître, qu'il avait suivi cependant pendant plus de trois ans. Jean 20, versets 24 à 29, nous montre sa réaction devant le Seigneur ressuscité. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Remarquez que Jésus n'a pas reproché Thomas de l'avoir appelé Seigneur et Dieu. Au contraire, il a prononcé une bénédiction sur ceux qui accepteraient cette vérité sans être eux-mêmes témoins oculaires de sa résurrection. Les disciples de Jésus furent transformés par sa résurrection. Avant de voir leur Seigneur revenu à la vie, ils se cachaient quelque part, les portes fermées parce qu'ils avaient peur des dirigeants juifs. Après la résurrection, nous les voyons pleins de courage, malgré les menaces des autorités, malgré les coups et la prison. Ils proclament Jésus comme Seigneur de tous les hommes. Ils n'ont même plus peur de la mort, étant convaincus que Jésus a triomphé sur elle. Si Jésus n'était pas ressuscité, la prédication et la foi chrétienne seraient vaines, selon 1 Corinthiens 15. Il n'y aurait pas encore de salut du péché. Les souffrances des chrétiens persécutés serait pour rien. Mais puisque Christ est bien ressuscité, les chrétiens savent qu'il a le pouvoir de ressusciter et récompenser ceux qui ont cru en lui. Avec cette assurance, les apôtres ont supporté d'incroyables épreuves et sont presque tous morts au lieu de renoncer à leur témoignage. Compte tenu de l'importance de la résurrection du Christ en rendant inébranlable la foi des apôtres, il n'est pas surprenant qu'elle occupait la place d'honneur dans leur prédication. Tout au long du livre des Actes, il revient dessus. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit à la foule, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Acte 2, verset 24. Il poursuivit en démontrant que sa résurrection avait été prophétisée 1000 ans auparavant par le roi David. Il conclut en appliquant le passage à Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, versets 32 et 36. L'apôtre Paul aussi a donné une grande place dans sa prédication à la résurrection. En acte 13, il dit ceci à un auditoire juif. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le deuxième psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les saintes grâces promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Acte 13, versets 30 à 34. 38 et 39. En prêchant aux païens, ce même Paul a encore parlé de la résurrection du Christ. Il dit devant les philosophes de la ville d'Athènes, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Acte 17, versets 30 et 31. Selon Romains 5, verset 8, la mort de Christ est la preuve de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Selon Romains 1, verset 4, la résurrection du Christ est la preuve de sa divinité. Paul écrit, « Il fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. »
Être fils de Dieu ne signifie pas que Jésus n'existait pas et que Dieu le Père a eu des rapports sexuels avec Marie et que Jésus fut le produit de la conception qui a suivi ces rapports. Non, Jésus existait bien avant de prendre la forme d'un serviteur, c'est-à-dire d'un être humain, Philippiens 2:7, et de naître parmi les hommes. Il dit lui-même, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jean 8, verset 58. Comme Dieu le Père, il a toujours existé. Quand il se disait le Fils de l'homme, il reconnaissait avoir, au moins pour l'espace de 33 ans, la nature d'un homme. L'expression « Fils de l'homme » ne signifiait pas que Jésus était inférieur à l'homme, ou même la postérité d'un homme, puisque physiquement il n'avait pas de père humain. Mais il était devenu un homme et il a connu l'existence d'un homme. Quand Jésus se disait « Fils de Dieu », il prétendait avoir la nature et les traits de Dieu. Il existait depuis l'éternité. Il était sans péché. Il avait tout pouvoir et toute connaissance, etc. Être fils de Dieu ne signifiait pas qu'il était inférieur à Dieu ou qu'il était issu d'un rapport sexuel quelconque. L'expression signifie que Jésus était divin et l'avait toujours été.
Parce qu'il est revenu à la vie pour toujours, nous savons qu'il n'était pas simplement un autre faux prophète ou faiseur de miracles, venu pour tromper les hommes et tirer avantage d'eux. Au contraire, il est venu pour nous réconcilier à notre Créateur et nous donner la vie éternelle. Pour être sauvé du péché, il faut croire que Jésus est bien ressuscité d'entre les morts et qu'il est donc le Fils de Dieu. Romains 10, versets 9 et 10. Il faut se repentir de ses péchés si l'on veut qu'ils soient pardonnés. Acte 3, verset 19. Il faut confesser ou dire devant les autres que l'on croit en Jésus. Romains 10, 9 et 10. Et il faut être baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire immergé dans l'eau, à l'image de la mort et la résurrection de Jésus, pour le pardon de ses péchés. Acte 2, verset 38. Mais tout cela est efficace pour notre salut seulement parce que Jésus est allé à la croix. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Comme la Bible nous rappelle en 1 Pierre 3, verset 21, le baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ.